Radio Panique, bonsoir. Il est 18h, passé de quelques minutes. Vous écoutez Vide & Co, 20 décembre 2023, dernier de l'année. Vide & Co spécial. Hold up d'une hirondelle avec une pelle. Fera-t-elle le printemps ? Cette hirondelle comme un oiseau de bon augure ? Hirondelles à l'appel. Ils se préparent pour le grand vol. Hold up. Ça vole bas tout ça. C'est l'histoire d'un trou de 9 cm de large, 14 cm de haut. C'est aussi celle d'un gamin, 8 ans, 1 m30. Dans sa main, une balle, 4,7 cm de diamètre. C'est encore l'histoire de son père et des 10 amis de son père portant à tour de rôle le géant Goliath. 136 kilos, de ces 136 kilos qui défilent, dansent et redansent 3 jours durant. C'est enfin l'histoire d'une ville ennuyère de 30 000 habitants entre en transe chaque année et de ses 100 000 spectateurs réunis pour une fête vieille de 6 siècles. La Duc. Ducasse date. Pour les visiteurs non aguerris, les défilés grandiloquents du dimanche, pleins de chars et de cheval, Bayard, font figure d'apothéose. Mais pour les vrais de vrais, les atois qui ne périront pas, leur devise chantée à tue-tête, le paroxysme, c'est ça. Le samedi, le jour du mariage de monsieur et madame Goliath, deux géants emblèmes de la ville et surtout le combat de 18h sur le perron de l'hôtel de ville qui oppose le berger David au géant tutélaire Goliath. Ce combat attesté à hâte en 1487 est le dernier vestige du genre en Europe. Et si les documents officiels répètent pour conjurer le sort que, selon la tradition,
n'est pas signe de mauvais augure pour la cité.
La vraie histoire, c'est finalement celle qu'on se raconte. Cette année, le berger s'appelle Antoine. Mais avant ça, il s'est appelé Ethan, Diego, Kylian ou Noah. Antoine, lui, c'est une chose.
Si tu réussis, c'est un an de bonheur sur la ville. Si tu rates, c'est un an de malheur.
Son père Laurent temporise. Il sait bien que tout ça, c'est des conneries. N'empêche, tous les porteurs et leurs entourages savent que l'année précédant la catastrophe de Guislinguin, le gamin avait raté.
D'ailleurs, après ça, ils ont agrandi la fenêtre. Fallait que le gamin réussisse.
Geoffrey qui l'explique, le chef porteur. La fenêtre, c'est donc le trou de la jupe du géant dans laquelle doit viser le berger.
Lève les bras, Antoine, s'il te plaît.
Sabrina, la costumière, note la longueur des manches. 41 cm. Aujourd'hui, 21 juin, c'est le jour des premières mesures pour le costume.
Faut pas que je me loupe,
sourit Sabrina. Dans exactement 67 jours, Antoine portera chemise, veste et pantalon blanc, nœud papillon rouge, chapeau blanc, surmonté d'une plume de paon, ruban rouge volant au vent. Antoine, il a déjà lancé la balle. En tant que fils de porteur, il a le droit de tenir le rôle de berger deux années consécutives. On y reviendra. Et l'an dernier, il a fait son premier lancer. Ce jour-là, son père Laurent n'en menait pas large. Il était sorti du lit bien avant la sonnerie du réveil pour aller vomir.
J'étais angoissé. T'as pas idée.
Peur que le gamin rate, qu'il dise mal son texte, que le costume se déglingue, qu'il se passe un truc, bref, grosse pression. Le texte, Antoine, il le connaissait nickel. Mais la balle...
La veille, il en mettait pas une. C'était l'enfer.
Le gamin s'était entraîné. Le jour J était arrivé. Antoine était devenu David. Il avait défilé tout en costumé. Puis vers 18h, devant l'hôtel de ville, la foule en liesse s'était tue. Le genre de silence qui rend sourd. Christophe, le porteur chargé d'assurer la voix de Goliath, avait pris place sous le géant. Il avait entamé le texte du combat qu'on appelle le bonimé.
Pied d'eau, assuré chien. Que veux-tu me poursuivre, une pierre à la main ?
David avait répliqué, une voix claire d'enfant, récitant un texte guerrier. Jusqu'à ses derniers mots.
Ah, Seigneur, donnez-moi la force et la puissance de mon bras, que j'en tire la vengeance.
Le berger avait alors repris son souffle, visé, lancé. Victoire. Hâte allait pouvoir passer une bonne année. Et Laurent soufflait jusqu'à l'été prochain. Nous voilà donc l'été prochain, celui du deuxième lancé. 17 août, J-40 avant le combat d'Antoine. Il fait beau, barbecue chez Thomas. Il est un des derniers rentrés dans le groupe, alors il marque le coup. Le terrain de boules s'anime, les cocktails s'enchaînent, tous les porteurs de Goliath sont là, leur famille aussi. Attablé en attendant les brochettes, on regarde les gamins jouer à l'eau.
Tiens, c'est quasi tous des anciens ou futurs bergers.
Sourit Simon, un des porteurs.
Pour la liste, on est bon jusqu'à 2031.
Balance Geoffrey, le chef qui nous fait un rapide topo. Il existe donc une liste de bergers. Une liste établie et décidée par un seul groupe, les 11 porteurs de Monsieur. C'est l'autre qui a donné nom au géant Goliath. La règle,
c'est qu'on fait d'abord appel à la descendance.
La descendance des porteurs, donc. Ça tombe bien, ces dernières années, ils ont fait tout un tas de garçons.
Ensuite, s'il n'y a pas assez de garçons chez les porteurs de monsieur, on va chez les porteurs de madame.
Le géant figurant l'épouse de Goliath.
Car madame, monsieur, ça reste la famille. Et puis, on peut faire des cadeaux.
Des invités extérieurs à la caste qui, eux, ne font qu'une année. D'autant que le chef reçoit régulièrement des lettres de demande, parmi lesquelles il fait un premier tri. Mais cette règle n'a pas toujours existé. Les premiers bergers étaient d'ailleurs des adultes. C'est au 19e siècle que le rôle revient aux enfants.
Par facilité, on a commencé à piocher dans le groupe. Puis, avec la montée en prestige du rôle, on a valorisé la transmission familiale.
Explique Laurent Dubuisson, historien et directeur de la Maison des Géants à Hatte. Aujourd'hui, le rôle est prisé. Mais dans le creux de la vague, à la fin des années 60, par exemple, heureusement qu'il était là, l'esprit de famille. De 69 à 74, c'est le même gamin, Jean-Luc Bourlard, qui avait dû lancer la balle 6 fois de suite.
La complexité de ces traditions qui s'inscrivent dans un temps long.
Poursuit Laurent Dubuisson.
Le principe même d'un rituel, c'est ce qui fait qu'il tient, c'est qu'il est porté par une communauté. Sans ceux qui la font, la Ducasse ne tiendrait pas. Qu'on le veuille ou non, l'avenir passe par eux. Alors oui, dans cette histoire de berger, il y a une forme de népotisme. Mais les groupes doivent garder leur liberté.
Aujourd'hui, c'est la ville qui a la responsabilité d'organiser la Ducasse. C'est elle qui gère la sécurité, finance les géants, défraie les porteurs. Mais la tradition, au fond, c'est ceux qui la portent, qui la façonnent. Et entre la commune et les groupes, c'est un subtil équilibre qui se joue. Mais si les gamins des porteurs peuvent être bergers, comment devient-on porteur? Parmi les 11 gaillards de monsieur, il y a des fils de porteurs, mais il y a aussi des pièces rapportées, des hasards de la vie. Comme Laurent, le papa d'Antoine. Lui n'a jamais été berger et n'a aucun lien de sang avec aucun porteur de Goliath. Il est entré par l'autre porte, celle des décennies passées à s'impliquer dans les ducasses de village, à boire des pintes ensemble, à tisser des liens forts. Une histoire faite de solidarité, de fête, de confiance. L'équipe des 11, c'est le fruit d'un mercato, d'un savant mélange de liens du sang, d'esprit d'équipe, de camaraderie et d'enjeux individuels. Oui, ils peuvent renvoyer l'image d'un groupe fermé, mais la Ducasse, c'est leur vie. Foot dans le jardin de papy.
Enfin Antoine, tu vas laisser tes chaussettes vertes ?
J'en ai pas d'autres.
Mais si, les blanches, dans le sac.
Ouf. Laurent se penche pour aider le fiston à enfiler les chaussettes. Sabrina vérifie que le costume est bien mis. Allez, faut y aller. C'est que la foule attend. Aujourd'hui, c'est un doublet. Présentation du berger et fête de départ de papy qui célèbre ses 40 ans à la tête de la fanfare de Monsieur et Madame. Chaque géant est accompagné de sa fanfare à la Ducasse. Le drone est en place. Il survole le périmètre. Un ami de la famille a été missionné pour produire un souvenir vidéo du berger. Antoine avance sur la terrasse.
Je vous demanderai de ne pas mettre les photos sur les réseaux sociaux avant la fin de la Ducasse.
Signale Laurent. Oui, ici on est des VIP. Et après un petit discours pour papy, c'est parti pour une séance photo avec le berger. Antoine avec papy et mamie. Antoine avec papa et Jennifer. Avec Joris, son parrain, avec Tom, futur berger, re avec papy, et Mamie. La précédente était ratée. Avec... on sait plus trop qui.
Émile vient chou. Une photo avec le berger.
Le défilé s'éternise. 26 minutes à griller en plein soleil, à prendre la pause.
Papa, je peux boire quelque chose ?
Habillé comme ça, jamais de la vie. Sur les tablés, ça discute. Sabrina est contente. Le costume, ça a l'air d'aller. Il y a quand même un truc bizarre avec ce nœud papillon. Il passe toujours derrière le col. Faudra arranger ça. Si elle est contente, Sabrina, c'est aussi parce que son fils, Pierre, est entré l'an dernier comme porteur de monsieur. Elle se prend à rêver, Sabrina. Si Pierre a un fils, il sera peut-être un jour berger, voire porteur. Bon, elle dit ça, Sabrina, mais au fond, une fille ou un garçon, peu importe. L'important, c'est la santé.
Tu rigoles ?
Rétorque Lydia, sa belle-fille.
Moi, je serais vachement déçu si j'ai une fille. Bah oui, je le dis, je suis honnête.
Mais ouais, tiens, au fait, une fille ne pourrait-elle pas faire berger ? Jamais de la vie. Là-dessus, tout le groupe semble d'accord. En tout cas, les hommes. De toute façon, soyons clairs, tout ça, c'est une affaire d'hommes. Dans l'histoire de la Ducasse, il y a bien eu deux filles berger David. L'une en 1945, l'autre dans les années 60. Personne ne sait trop comment ce miracle, cette hérésie, a bien pu voir le jour. Ça ne s'est jamais reproduit. Et même sans parler de berger, tant que Geoffrey sera aux manettes, le débat fille-garçon n'existe pas.
Comme mon père disait, pas de majorette avec. Les filles, c'est plus pour aller sur un char. Les gars, pour porter les géants.
Dans d'autres groupes, comme celui des porteurs du géant Samson, il y a déjà eu une femme porteuse. Et les porteurs de Blo, ces gamins qui suivent le géant et ramassent les pièces, accueillent aussi des filles chez Samson. Chez Goliath, c'est hors de question. Mais dans le groupe, tout le monde n'est pas aussi catégorique. Christophe, la voix, est d'accord pour dire non, que non, techniquement, rien n'empêche qu'une fille porte le bleu. Laurent, quand on lui parle de la place des femmes dans la Ducasse, écoute. Même s'il a son avis, pour l'instant en tout cas, le chef a dit, et le groupe la joue collectif. C'est ça, la vraie règle.
Collectif, c'est ça la vraie règle.
Juillet, Antoine s'entraîne. Papy lui a construit une boîte en bois dans laquelle il lance la balle dans sa chambre. À côté de son lit, la punaisée, le bonimet qu'il devra réciter au micro le jour J.
C'est le plus important, tenir son rôle,
a dit papy. Et une semaine avant la Ducasse, Antoine peut venir s'entraîner en vrai, sur le géant, dans l'ancienne caserne des pompiers, comme ce vendredi 25 août, J-1 avant le combat. Papy est là.
C'est bien, il ne réussit pas trop souvent. Sinon, il pourrait avoir trop confiance.
C'est que le gamin s'applique. Et applique sa technique.
C'est Vincent, un ancien berger, qui me l'a donné. Il m'a dit : tu fais comme si tu tirais avec un fusil. T'as une seule cartouche. Tu dois pas hésiter. Mais tirer tout de suite.
Dernier, Noah, du service menuiserie de la ville, est passé au premier entraînement à la caserne, mercredi. Lui aussi a été berger.
C'est un de mes plus beaux souvenirs,
avait-il raconté.
Je me souviens que j'étais la star du jour.
Pourtant, lui a raté son coup. De quoi relativiser. Ici, les plus pragmatiques le savent. Le gamin réussit une fois sur deux. Mais quand on est celui qui tire, les statistiques ne comptent pas. Samedi 26 août, c'est le jour J, il est 10h, les 11 sont là, dans le hangar, d'où vont sortir les géants. Les mines sont graves. Les pantalons, vestes et polos sont blancs. Des costumes qui rappellent les origines populaires des porteurs, ces ouvriers du moulin des Estaques qui coltinaient les sacs de blé. Les porteurs actuels sont ouvriers électriciens, mais aussi kinés, patrons de friterie ou ingénieurs de maintenance à l'incinérateur de Tumède. Ça, c'est Laurent. Laurent, il a mal dormi. 5 heures, grand max. Mais bon, cette fois, il n'a pas vomi. Il carbure au Fanta et au baume du tigre. Antoine est là. Silhouette enfantine, noyée dans une horde d'hommes forts. Parmi le gars en blanc, il y a pas mal d'anciens bergers. Parmi eux, on distingue Kylian. Sa première année de berger en 2012 est gravée dans toutes les mémoires. Devant le géant, Kylian s'est retrouvé pétrifié. Impossible de bouger, paralysé. Paralysie d'un gamin de 7 ans face à un destin beaucoup trop grand. Sur les vidéos d'archives, on découvre un enfant tétanisé. Ses larmes qui coulent, sa tête baissée, sa main agrippée à la canne. Le corps tout entier, prêt à s'effondrer. Et pendant plusieurs longues minutes, ces sanglots qui déchirent l'air. Les porteurs agenouillés avaient paniqué. Son père s'était passé la main sur le visage.
Puis mon étoile, comme je l'appelle, est arrivée.
Jean-Luc Bourlard, le vieux de la vieille, celui qui avait tenu 6 fois le rôle de berger au début des années 70, il s'est approché du petit. Il lui a dit quelques mots à l'oreille. Kylian avait respiré longuement, enlevé son chapeau, saisi la balle, visé, lancé, dedans.
C'est toute ma vie.
Explique aujourd'hui le Kylian de 18 ans.
J'y pense tous les jours de l'année.
Ce qu'il voudrait bien sûr, c'est devenir porteur officiel, comme son père. Pour l'instant, il porte, mais seulement le lundi de la Ducasse. Il doit encore faire ses preuves. Ce matin, il file sous le géant, le fait tourner.
Modération, modération.
Lance les vieux. Il ressort. Ça s'est bien passé.
Je voulais montrer que je sais le faire. Mais c'est les vieux qui décident.
Kylian, lui, attend. Devant le perron de l'hôtel de ville, derrière les barrières, environ 10 000 personnes. La foule remplit la place. L'écran géant assure la retransmission du cortège qui se prépare, c'est sûr. Antoine s'appelle désormais David.
Allez David, comme l'an dernier, hein, tu la mets.
À l'intérieur du périmètre réservé aux géants, des invités, les familles proches, mais aussi une immense brochette d'élus et d'officiels. La valse des selfies avec le berger commence. David s'exécute. La fanfare de papy démarre. C'est le signal. Le cortège se met en branle. Geoffrey ouvre la voie. Les porteurs entourent le géant et enchaînent un ballet de valse jusqu'à l'église Saint-Julien. David est tantôt devant le géant, tantôt derrière. Son ruban rouge vole au vent.
Mais arrête de mettre tes doigts sur le chapeau,
dit papa. Le temps est orageux, la météo annonce de la pluie, on souffle régulièrement sur le chapeau pour enlever les moucherons. Ça gougoute, ça goûte. Merde, ça y est, il pleut. Heureusement, Laurent Dubisson, l'historien relations publiques de l'Histoire, se trimballe avec une série de ponchos transparents. Il en enfile un, vite fait, à David. Attention, attention, le chapeau. De temps en temps, une photo avec quelqu'un du public.
Courage, David.
La pluie finit par passer, les 11 porteurs font corps. Pendant l'effervescence de la foule, ça donne parfois un peu le tournis. Il est maintenant 17h. Après une pause à l'église, le temps d'une cérémonie religieuse remplie d'officiels, tiens, Elio Di Rupo, ah, Ludivine de Dondeur. Le cortège a repris. Monsieur et Madame, les géants, sont officiellement mariés. D'où le passage à l'église. Et de leur côté, ça danse beaucoup plus franchement. Un des porteurs, Laurent Sauvage, a été missionné par le groupe pour protéger le petit. Veiller à ce qu'il ne se fasse pas emmerder ni déborder. Laurent Sauvage et David fendent la foule et s'éclipsent. Le caméraman de la famille collé au train d'Antoine. Derrière, les barrières, ça hurle « David, 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 David à tout rompre ». Ils arrivent devant l'hôtel de ville. Un technicien de nos télés vient coller un micro à l'oreille de David. Pour la retransmission, le gamin change de tête.
Le couloir tient pas. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne.
Il arrête pas de tripoter le micro. On va arranger ça. Il s'engouffre dans l'hôtel de ville pour attendre au calme. Dans la salle communale, il parle de tout, de rien, des hamburgers sauce andalouse et du coca. Ah ça oui, ce serait bien. Et puis ça y est, c'est le moment. David descend sur la place de l'hôtel de ville. Goliath l'attend. Papa est là, il prend son gamin entre quatre yeux. Son ton est ferme, directif, mais enveloppant.
Tu te rappelles ? Fusil. Y a toi, le géant, et personne d'autre.
David prend place. Visage impassible. L'angoisse qui monte. Christophe, la voix dans le géant commence le bonimer. Silence dans la foule. Ils sont des dizaines de milliers. Pression. Le visage de David dévore l'écran géant. Derrière lui, son parrain, puis son père. Un genou à terre. Laurent fixe le sol. Il ne regarde pas. Puis si, il regarde quand même. David prend la balle. Le gamin semble soudain suspendu, comme dans un état second. Mais non, il ne s'y est pas. Bras en arrière. Bras en arrière, comme on a dit, bras en arrière. Mais non, il ne s'y est pas, bras en arrière, comme on a dit, bras en arrière, fusil. Antoine ne s'y est pas, comme on a dit, fusil, lancé. K.O. de liesse, Laurent prend son fils, le porte à bout de bras sur le perron de l'hôtel de ville. Le bourgmestre le hisse sur le balcon, le présente à la foule et ça dure. Encore une bonne année. Encore une bonne année. La pression retombe. Antoine se poste à l'entrée de l'hôtel de ville. Les officiels passent et lui donnent des pièces, même des billets. 5 euros, 10 euros, 20 euros. Damien, un des porteurs est là. Il pleure. 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 Ne s'arrête pas de pleurer. Au début, on prend ça pour des larmes de joie. Mais non. Il y a quelque chose qui cloche.
Antoine, il l'a tellement bien fait. C'est le meilleur.
C'est vrai. On a rarement vu un gamin aussi placide et déterminé.
Mais moi, mon gamin, il est trop petit. Tu te rends pas compte? Je sais pas comment il va faire.
Tom sera berger l'an prochain. C'était Videnko, épisode 27. Hold up d'une hirondelle à l'appel. Avec Nico, Madame Patate, Ivanoé et Leslie sur une lecture de Balle au centre, un texte de Chloé Andriès, illustré par Laurie Charles dans le numéro 33 du trimestriel belge d'enquête et de récit Médor, même pas mort. Retrouvez-nous sur radiopanique.org.